Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dialogue d'auteur. Suite à de nombreux problèmes d'hébergement et d'emploi du temps, je n'ai pas pu mettre à jour autant que je le voulais le podcast. Et ce numéro, que je vais titrer en bon sériephile qui se respecte, le Christmas Special, je le publie pour me faire un peu pardonner, même si la plupart des soucis ne sont pas réglés. Mais en plus, il vaut largement le coup. En juin dernier, j'avais rencontré le duo à la tête du succès critique et public du printemps dernier, Irresponsable, la série d'OCS. Camille et Frédéric Rosset m'avaient fait le grand plaisir de venir discuter avec moi à une période, vous l'entendrez, où la série n'avait pas encore été renouvelée. Pour ceux qui sont passés à côté de l'info, rassurez-vous, maintenant c'est le cas. Dialogue d'auteur est un podcast réalisé en partenariat avec la Guilde des scénaristes et la SACD, et enregistré à la Maison des auteurs SACD. Bonne écoute et à bientôt, j'espère, héberger et partager.
Comment ça s'est passé un petit peu d'où est partie l'idée de responsable?
Alors, c'est parti du pitch, tout simplement. Et alors là, d'où vient l'idée du pitch, j'en sais rien. Mais à un moment donné, je me suis réveillé, je sais pas, je me disais, mais l'histoire d'un type qui se comporte comme un ado, qui a 30 ans et qui découvre qu'il est père d'un vrai ado. Dis donc, ça pourrait être une bonne idée. c'est un jour, je me lève. Et je pense à ça, et ça faisait un petit moment que j'avais ça en tête, et c'est seulement une fois que je suis rentré à la famille, c'est qu'ils nous ont demandé de développer une idée personnelle, une série, que j'ai ressorti ça de mon tiroir, quoi, et je me suis dit, bon, bah, ça, je trouvais qu'il y avait vraiment un truc à jouer là-dessus, qu'est-ce que je peux en faire, quoi.
Et t'as eu cette idée à quelle époque?
Je sais plus. C'était en 2011, 2012, je sais pas, c'était bien un an, voire plus, avant que je me mette à la développer vraiment, mais c'était aussi une période de ma vie où j'avais des idées, mais où j'essayais pas du tout de les rédiger, quoi. C'était une période où j'avais un petit peu abandonné l'idée de, pour l'instant, de bosser tout de suite. Je faisais de la régie, de bosser tout de suite en scénario, je veux dire, je faisais de la régie, c'était une période où j'essayais déjà d'avoir mon statut d'intermittent, déjà.
D'accord.
Et donc, du coup, j'avais tous mes désirs artistiques, tous mes désirs d'écriture, je les avais vraiment mis de côté. Donc, j'ai eu cette idée à une période où je cherchais même pas à avoir d'idée, quoi. Et donc, c'est seulement à un moment donné où on m'a dit, cette fois, il faut, au moment où je me suis décidé de m'y remettre vraiment, où j'ai vraiment décidé de devenir auteur, j'ai réfléchi à tous ces trucs-là auxquels j'avais pensé, mais que j'avais pas du tout cherché à développer. Celle-là, tout de suite, m'est apparue comme étant la meilleure que j'avais, tout simplement.
Et toi, Camille, à cette époque-là, quel était ton regard sur ce projet-là? T'étais déjà partie prenante? Ou tu développais déjà avec lui?
Non. Je pense que tu m'en as parlé au moment de la FEMIS. Je suis pas sûre d'en avoir entendu parler avant. Ah si, peut-être.
T'es la seule personne avec qui j'en avais parlé avant d'essayer d'en faire un truc. Je m'en souviens très bien.
Ok.
Mais bon, c'était vraiment...
Alors, dans la famille, Fred a une très bonne mémoire et moi une très mauvaise.
D'accord.
Ok, je m'en souviens. Et c'est vrai que moi, j'avais tout de suite trouvé que c'était une super idée et j'ai toujours bien aimé... Les histoires de retour au bercail. Et ensuite, quand il l'a développé à la FEMIS, il me le faisait lire régulièrement, il m'en parlait, mais il travaillait tout seul sur ce projet à ce moment-là.
Quoi. Et toi, tu faisais quoi? Tu lui faisais des retours? Tu lui donnais ton impression? Tu retouchais des choses?
Non, j'ai jamais rien retouché concrètement. D'accord. C'était vraiment juste oral, quoi. On en discutait. Je lui faisais des retours.
C'était la personne hors FEMIS à qui je refaisais lire, donc du coup qui avait un certain recul, quoi. Il y avait mon tuteur Vincent Poimiro, les directeurs de la formation Emmanuel Dossé et Franck Philippon, qui étaient vraiment ceux qui faisaient des retours principaux, quoi. Mais dès que j'avais besoin d'un regard extérieur, je faisais appel à Camille.
Et tu disais qu'il y a une époque à l'époque où t'avais cette idée là t'avais plus ou moins laissé tomber l'idée de devenir scénariste, comment ça s'est passé exactement?
Enfin, devenir scénariste, c'est assez particulier parce que j'ai pas toujours voulu être scénariste de série télé, mais pas parce que ça ne m'intéressait pas, c'est parce que pendant très très longtemps, je pensais que c'était pas un truc qui était faisable en France.
D'accord.
J'ai toujours été extrêmement fan de séries télé et de cinéma, et les deux m'intéressaient, mais j'avais fait l'ESRA, qui est des études de ciné. J'ai essayé de bosser dans le milieu du ciné, mais la série télé, j'y pensais même pas, parce que j'avais l'impression que qu'on n'était pas dans le bon pays, quoi, tout simplement. Et arrivé à un moment donné, et c'était justement pile poil dans la période dont je parlais, où j'avais de toute façon, je faisais plus de la régie qu'autre chose, et où je cherchais plus à gagner ma vie qu'à faire ce qui me plaisait vraiment. C'est à ce moment-là que je découvre Les Revenants, la saison 1, à ce moment-là, je me dis, bon, bah, c'est génial, mais c'est toujours la logique de l'exception qui confirme la règle. Et je sais plus qui m'a dit, mais non, t'es con, regarde Un Village Français, regarde Engrenage, il y a des bonnes séries françaises. Et j'ai en effet enchaîné Un Village Français, Engrenage. Et oui, c'était très bien. Et je me dis, ok, d'accord, donc il est possible de faire quelque chose en France. C'est pas juste de l'ordre du fantasme. Donc, mais pourquoi pas? Et c'est vraiment, quoi, 6 mois plus tard, un truc comme ça, que Camille d'ailleurs me dit, qui était à la, là, elle en parlera après, mais était à la FEMIS, elle en a le scénario, qui donc du coup a eu vent de cette nouvelle formation qui se créait pour la série télé, qui me dit, Fred, ça devrait t'intéresser, ça devrait être ton truc. J'ai un peu hésité, puis je me suis dit, si, pourquoi pas, et j'ai tenté, et c'est vraiment comme ça que je suis devenu scénariste télé. C'est en tentant le concours de la FEMIS, c'est en entrant d'un coup les deux pieds dans le plat, d'un coup. Mais voilà, je faisais quand même du scénario déjà, mais pour de la bande dessinée. Ça c'est un peu autre chose, mais vraiment, j'ai décidé de devenir scénariste de série télé en même temps que je suis entré dans cette formation, et en même temps que je le suis quasiment devenu, en fait. Et pas que ça ne m'intéressait pas, mais vraiment parce que j'y croyais pas avant. Ça me paraissait vraiment pas réaliste.
Et du coup, Camille, c'est toi qui es scénariste dans l'âme, en fait, ou comment ça se passe? Enfin, c'est toi.
Alors, oui, on a un peu commencé en même temps, j'ai l'impression. Enfin, on veut faire tous les deux du cinéma à la base, depuis notre enfance, je pense.
D'accord.
Et moi, j'ai toujours voulu faire du cinéma, mais j'ai fait une école d'art, les arts déco, en vidéo. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il me manquait le côté plus scénario, quoi. À la base, moi, ce qui m'intéressait, c'était filmer des gens qui font rien. C'était surtout l'image, quoi. Et après, je me suis dit, mais autant raconter une histoire. Et j'ai tenté l'atelier scénario de la FEMIS, qui est une formation continue. En un an, on écrit un premier long métrage, en fait. Et en fait, pareil, je me suis un peu pris au jeu en même temps que je l'ai tenté, et j'ai adoré ça. Et je me suis rendu compte que j'avais des choses à raconter, et qu'en fait, la fiction, la dramaturgie, tout ça, ça m'intéressait. Et du coup, c'est pendant cette année de formation qu'ils ont ouvert cette option série. Et du coup, effectivement, ça m'a tout de suite... Enfin, je me suis dit, c'est pour Fred, en fait, c'est exactement ce qu'il lui faut.
Comment ça se fait que... Qu'est-ce qui vous a poussé à tous les deux à vouloir faire du cinéma? C'est dans la famille, c'est un petit peu présent, ou c'est parce que justement vous êtes...
Nos parents sont pas dans le cinéma, mais on a baigné dans un milieu plutôt culturel où on nous montrait des films, mais on nous montrait aussi, on allait aussi dans les musées, on lisait des livres, on écoutait de la musique, mais nous c'est le cinéma.
On a un père très cinéphile quand même qui en plus, alors moi c'est mon expérience, c'est que quand j'avais 11-12 ans, c'est le moment où le DVD est arrivé dans les foyers, et donc à chaque fois qu'on allait rendre visite à notre père, nos parents étaient divorcés, donc c'était le week-end, c'était bon, bah quel est le nouveau film qu'il a acheté et qu'est-ce qu'on va découvrir, donc du coup... Et en plus, lui, alors, comme il était très cinéphile, justement, il achetait cinéaste par cinéaste. Donc, à 12 ans, moi, d'un coup, je découvre tout de Palma, quasiment, tout Cronenberg, tout Carpenter. Et donc, évidemment, ça forge une cinéphilie très rapidement.
Cronenberg, à 11 ans, c'est...
Ouais, 11, 12 ans. Ouais, non, oui, non, mais quand j'y pense, d'ailleurs. Et donc, ouais, c'est vraiment, en fait, je ne me souviens pas avoir voulu faire autre chose. En plus, Camille était aussi intéressée par ça, et Camille étant la grande sœur, évidemment, on peut être un peu influencé, même si on n'avait pas forcément les mêmes références à l'époque, on regardait, mais quand même, ça poussait à avoir envie de faire ça, quoi. Vraiment, en plus, je suis tombé sur des amis très cinéphiles, qui est souvent beaucoup de gens qui veulent bosser dans ce milieu sont tout seuls jusqu'à ce qu'ils arrivent à une école de ciné à 18 ans. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur des amis qui eux aussi étaient intéressés par ça. Donc, du coup, très vite, on a pris une caméra et fait des films entre nous. Donc, j'ai baigné là-dedans très très tôt, quoi.
Toi, tes références, c'était plutôt De Palma et Cronenberg.
Au début.
Moi, c'était Godard à 14 ans. Non, c'est vrai que effectivement, la cinéphilie de nos parents et de notre père en particulier a joué. Mais et Hitchcock aussi.
Et Woody Allen peut-être un petit peu, non?
Pas du tout.
Tant que ça, ouais.
Ah oui, parce que l'aspect comédie et l'aspect Sébastien Chassaigne, l'acteur qui joue qui joue le rôle principal, qui fait beaucoup penser à Woody Allen. C'est pas que j'ai un problème avec Woody Allen, hein, moi je trouve ça très sympathique, mais alors ça a jamais été ma passion. J'aime énormément son tout premier film. Prends l'oseille et tire-toi. Le sketch du violoncelle quand il est dans une fanfare et un des sketchs les plus drôles que j'ai vu de ma vie. Oui. Mais du coup, j'ai un peu le syndrome de son extrêmement snob de dire son premier film était un chef-d'œuvre, le reste c'est pas mal. non, mais si, c'est très bien, Woody Allen. Mais voilà, c'est pas ma référence absolue.
Parce que Sébastien Chassagne, c'est un petit peu comme si Woody Allen et Alain Chabat avaient eu un fils, en fait.
Je suis plus Chabat.
Ah oui, nous, on a grandi avec les nuls. Hein. Quand on était petits, on n'avait pas la télé. En revanche, on regardait les nuls et les Monty Python.
D'accord.
C'est ce qui a forgé.
En comédie, clairement, ouais.
Il y a pire.
Enfin, moi, je sais que. Et toi, t'étais plus petit, mais. Avant d'entrer au collège, j'ai jamais regardé une émission télé, mais en revanche, on regardait les Monty Python en VO, et moi, je me souviens d'ailleurs de les avoir regardés en sachant pas encore lire, quoi. Et du coup, je rigolais, mais je comprenais pas les blagues. Et quand j'ai eu les traductions un peu plus tard, j'ai fait « Ah, d'accord
!» Oui, les sketchs plus visuels de Michael Palin ou Terry Jones, c'était plus efficace quand on est jeune que les sketchs extrêmement verbeux de John Cleese ou... Grab Chapman.
Les allusions sexuelles d'Eric Idle, je les ai comprises un peu.
Ouais. Tard, quoi. The Silly Walk était le meilleur sketch du monde à cette époque. Mais moi aussi, j'ai le souvenir en effet d'avoir regardé Monty Python très jeune. C'est la référence absolue.
Et les nuls beaucoup aussi, c'est vrai.
Bah, de toute façon, les nuls, je pense que leur référence absolue, c'était les Monty Python. Donc, tout est lié.
c'était à quelle époque? Vous aviez quel âge à peu près quand vous consommiez les Monty Python?
C'était 5-10 ans.
D'accord.
Et donc moi encore plus jeune en fait. Parce que mais il y avait des 4 ans de moins quoi, mais il y avait des
je sais pas, c'était l'époque du Monty Python Flying Circus. Bah, non, c'était pas l'époque en fait.
Non, mais ils avaient des VHS tout simplement.
Ouais.
C'était des VHS. Carte
diffusée.
Ouais, c'est ça, ils avaient dû les enregistrer.
D'accord. Donc ouais, c'est marrant que Woody Allen soit pas vraiment une référence pour côté humour et un petit peu Après, c'est pas le même univers, quoi. On n'est pas chez les riches à Manhattan, mais...
Ouais, non, mais c'est... parce que par exemple, quand on dit notre référence absolue, c'est les Monty Python, moi je comprends très bien qu'on dise que ça ressemble plus à du Woody Allen qu'à du Monty Python, mais après, on fait pas exactement la même chose que ce qu'on admire non plus. D'ailleurs, souvent, on admire ce qu'on n'est pas capable de faire soi-même, en fait, j'ai l'impression. Et donc c'est peut-être ça aussi.
On va parler un petit peu des formations de la FEMIS, comment ça s'est passé exactement, justement dans les deux aspects un petit peu différents. L'écriture du long métrage, comment ça s'articule, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, qu'est-ce que tu penses?
Beaucoup de choses, déjà des rencontres. Ouais. En fait, comment ça se passe, c'est il y a 3 classes de 7 personnes. Donc en gros, on est dans une classe avec 6 autres élèves qui écrivent aussi leur premier long métrage et on a un prof référent. Moi, c'était F. Deboise.
D'accord.
Et en fait, c'est sur un an et quelques mois la formation et on se voit 3-4 jours tous les mois et demi. Et on avance, enfin on part du pitch quoi, à une première V1 dialoguée, qui est en vérité plus une V2, V3, qu'on présente devant un jury quoi, à l'issue de cette formation. Et donc on avance chacun sur notre projet, mais on lit aussi les projets des autres. Donc on est lecteur pour les autres, ce qui est hyper formateur. On est souvent beaucoup plus fort pour les autres que pour soi. Hein, donc ça c'est et voilà. Et quand on se retrouvait, on faisait des table ronde où on parlait de chaque projet en en ressortant avec une tête comme ça. On voit pas, mais bref.
Allume une grosse tête.
C'est pas avoir la grosse tête, quoi. C'est juste avoir la tête pleine de retours, etc. Et du coup, voilà, ouais, c'était super de lire les projets des autres parce que, comme donc je disais, c'est bien d'aiguiser ça, la lecture des projets. Et puis d'avancer sur son projet, d'avoir les retours de 6 personnes, c'est très très formateur. C'est vrai que jusqu'à présent, moi j'écrivais plutôt de mon côté. Puis en plus, j'avais une vraie tendance à rien montrer de ce que je faisais. Donc j'ai fait des films autoproduits qui ont été vus par mon frère et ma mère. Enfin voilà, j'avais vraiment peur de ça en fait, du regard.
Le retour était bon.
Ça va, ça va. Sévère, mais juste. Non, c'est... Mais du coup, ça, c'était, ouais, hyper... Il n'y avait pas le choix, quoi. Il fallait se faire lire. Et puis, en fait, c'était assez libérateur. Et donc, moi, ça m'a beaucoup apporté. J'ai rencontré des gens super avec qui on a monté, en plus, un collectif de scénaristes-réalisateurs après parce qu'on a vraiment aimé cette expérience. Et donc, on continue tous les mois de se revoir, de se lire. Et donc, ça, c'était... ouais, ça m'a apporté beaucoup.
C'était quoi le film, le sujet du film que tu as présenté, si tu peux en parler?
C'est un projet, parce que moi j'ai fini l'atelier de scénario il y a 2 ans déjà, et je l'ai complètement mis de côté parce que j'ai réalisé des courts-métrages en attendant, histoire de pas mettre la charrue avant les bœufs. Mm-hmm. Donc c'est un projet dont je sais pas très bien parler, mais qui a un personnage adolescent de 15 ans, comme, enfin voilà, c'est l'héroïne quoi. Comme d'ailleurs tous mes courts-métrages et comme aussi un peu irresponsable. Donc et c'était plus un, pour le coup c'était pas une comédie quoi, c'était un drame en fait. C'est l'histoire d'une jeune fille de 15 ans qui vit en fait sa vie d'adolescente. Donc on a le collège, on a le garçon dont elle est secrètement amoureuse, parce que moi ce qui m'intéresse en gros au cinéma c'est les histoires d'amour. Et en parallèle elle se rend compte que sa grande sœur est toxicomane, héroïnomane, et l'histoire tourne presque au fait divers avec le père qui, voulant sauver sa fille d'elle-même, décide de l'enfermer. Donc la petite est complice de ça, mais tout ça sous couvert de bienveillance, quoi. Et donc j'essayais d'avoir en même temps ce quotidien presque insouciant de l'adolescente, et qui en même temps, quand elle est dans le foyer familial, a quelque chose de beaucoup plus dur. Mais tout en virant pas au drame en fait, en mettant de l'humour et en faisant comme c'est un travail aussi sur le déni, en fait l'histoire de l'ado, le quotidien ado prenait le dessus sur cette histoire dramatique. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut que je retravaille. C'est un peu c'est pas si simple à faire quoi. Mais en tout cas c'est
marrant cette volonté de, enfin c'est marrant, c'est tout à fait louable, j'apprécie énormément cette volonté de mettre de la comédie dans le drame, qui est finalement l'inverse de l'irresponsable, où il y a un petit peu de drame dans la comédie, mais ça renforce vachement les enjeux. Comment vous avez géré un petit peu le dosage? Est-ce que c'est venu naturellement ou...
Ouais, c'est une vraie volonté, c'est vraiment un cheval de bataille personnel. Enfin, je m'en suis rendu compte en étant la famille d'ailleurs, que c'était un cheval de bataille personnel, le mélange des genres. Parce que justement, je citais de toutes ces séries dramatiques françaises que je disais avoir adoré, et c'est le cas, comme Les Revenants, Engrenage ou Un Village Français. Par exemple, voici 3 séries dramatiques qui sont vraiment très très bonnes, mais il n'y a quasiment 0 scène d'humour en fait, à aucun moment. Or moi, mes séries dramatiques préférées américaines, c'est Breaking Bad, c'est Six Feet Under, c'est Les Sopranos, c'est même The Wire, ou même dans The Wire, et très clairement il y a des scènes d'humour qui font, parce que c'est, alors c'est pour le cas spécifique de la série télé, c'est vraiment un format qui est idéal pour mélanger les genres, parce que ça, c'est sur du long cours quoi, donc on peut vraiment on peut bifurquer à des moments et revenir sans problème au genre initial après si on veut. Ça ne fait que renforcer le sentiment qu'on veut donner en donnant des respirations. Et inversement, j'aimais aussi beaucoup les comédies qui à l'inverse disaient, c'est pas parce qu'on fait de la comédie que d'un coup on n'a pas le droit d'avoir des moments plus touchants, plus marquants. C'est marrant, je crois que la première qui m'avait fait remarquer ça, Elle n'était pas parfaite là-dessus au niveau du dosage, mais c'était très impressionnant quand même. Enfin, j'étais vraiment très surpris. C'est français, c'est Kaamelott. Quand j'avais vu la saison 5, la première partie de la saison 5, je m'étais dit, waouh, c'est marrant, c'est pas drôle là à ce moment-là, mais c'est bien. Je pense, d'ailleurs, il le dit lui-même, donc c'est pour ça que je me l'osais le dire. Je pense qu'il allait un peu trop loin dans la seconde partie de la saison 5 à un moment donné. Je pense qu'il était vraiment dans la logique que je vous emmerde, je suis capable de le faire maintenant. Mais c'était quand même vachement passionnant. C'était vraiment très intéressant. Et ensuite, il y a clairement la dramédie, donc, qui, pour le coup, la série américaine, où il y en a eu plein, il y en a eu pléthore, et moi, quand je commençais à développer Irresponsable, c'était au moment où il y avait, où Girls saison 3 était diffusée, où Louis saison 4 est arrivé, et j'avais déjà ça en tête, clairement, mais ça m'a fait confirmer que, ah ouais, il y a moyen d'aller loin, parce que c'est donc la première saison de Girls où vraiment ça va très loin au niveau de la noirceur. Alors Louis, j'en parle même pas. Et ce sont à l'époque, c'était mes saisons préférées de ces deux séries-là, quoi. Donc ça m'avait rassuré. Et depuis, il y en a eu plein d'autres d'ailleurs qui sont arrivés. C'est vraiment un truc qui est dans l'air du temps, en fait, quand tu regardes Master of None, BoJack Horseman, You're the Worst, même la fin de Rick et Morty tombe là-dedans d'un coup, enfin la fin de la saison 2, et c'est génial. C'était prévu depuis le départ, mais ça allait encore plus loin que ce que je pensais, je pense. Par contre, de toute façon, j'avais déjà dans l'idée que si ça arrivait petit à petit. Le premier épisode qui tombe vraiment là-dedans, c'est l'épisode 5 maintenant, donc mi-saison, où d'un coup la dernière partie de cet épisode, je vais pas raconter quoi, mais d'un coup les dialogues disaient des choses sur les personnages, ils réglaient d'un coup leur compte, c'était entre le personnage de Julien et son ex-mari, où d'un coup il y avait plus vraiment de blagues, et je me souviens que Camille et moi, c'est quand le co-écrivait cet épisode, on avait peur, on avait beaucoup peur des retours de nos producteurs. Est-ce que ça allait passer? Est-ce que d'un coup on va nous dire mais c'est plus la série, c'est plus drôle? On était pas convaincus, quoi. Enfin, c'est pas qu'on était pas convaincus, on était convaincus que c'était bien, mais on était pas convaincus que ça allait convaincre. Et finalement non, on s'est rendu compte à quel point Tetramedia et Antoine Zimalka, principalement notre producteur, étaient complètement à fond dans cette logistique là. D'ailleurs, il nous a même poussé à aller plus loin, et du coup on s'est dit ok, allons-y vraiment. Et donc, même si tous les pitchs étaient déjà écrits, on s'est encore plus lâché là-dedans, et donc du coup la série devenue ce qu'elle est devenue à force dans l'écriture, quoi, parce que on s'est dit à un moment donné, on veut toucher vraiment à l'humanité de nos personnages, et on veut les pousser loin. Et donc du coup, tant pis si même tant mieux en fait si ça mélange les genres, du coup, quoi, si on oublie d'être drôle à des moments donnés. Enfin, il faut jamais oublier de l'être totalement, pas que d'un coup ça devienne autre chose, mais c'est pas grave si à ce moment si on rit pas toutes les 5 secondes, quoi.
Ouais, justement, c'est des discussions que vous aviez consciemment, en vous disant des fois attention, faut qu'on soit plus drôle, ou attention, là, faut qu'on soit plus authentique. Comment ça se passait exactement à ce niveau-là?
Quand d'un coup on trouvait ça trop triste, on avait à un moment donné une sirène, genre mayday, faut faire quelque chose. Ouais. Et la fin de l'épisode 7, par exemple, c'est compliqué, mais il y a une déclaration qui se fait, voilà, une nuit, je vais trop loin. Mais quand on l'a écrite la première fois, on s'est dit, dis donc,
il manque un gag.
Il manque des gags, quoi. Et donc, on y allait franco, et on disait, ah, c'est génial, parce qu'il y a quand même tout le côté émotionnel est là, mais qu'est-ce qu'on se marre quand même dans cette scène. On aimait beaucoup ce mélange. Ce qui est intéressant, c'est qu'au tournage, l'aspect comique de notre réécriture, de notre V2 plus comique que la V1, a été atténué, ce qui fait qu'on est plus revenu à la V1 qu'à la V2. Et nous, sur le moment, quand on a vu les rushs, ça faisait partie des quelques moments où, en voyant les rushs, il y avait l'idée de « Ah, mais pourquoi ils ont fait ça? C'est nul, c'est moins drôle que prévu. » Et quand mon tâche finale, et en voyant les réactions des gens derrière, on peut pas se dire ouais, en fait, tant mieux, en fait. Ça marche très très bien en mode de premier degré tel quel. Finalement, on n'avait pas... Enfin, le gag est encore là, mais il est très atténué. Ouais. Mais il gâche pas l'émotion. Alors, je pense que si jamais ça avait été vraiment littéralement comme on l'avait écrit, je pense que ça aurait été un peu dommage de perdre ça, en fait. Et donc du coup, non, c'est très bien.
Sans spoiler, on parle du réveil d'un autre personnage, c'est ça ?
Non. Ça c'est vraiment pour moi du gag à la Six Feet Under, pour le coup. Ça c'est autre chose. C'est juste après... c'est l'épisode de l'apéro dînatoire où ils sont à quatre en train de manger.
Quand ils retournent à l'appartement pour parler, il y a quelqu'un qui se réveille à ce moment-là.
Ah, pardon, alors j'ai pensé à complètement autre chose. Désolé.
Tu pensais à quoi?
La scène du réveil, je pensais du coup le rêve où il rêve.
Ah oui,
c'est un autre épisode, mais non. C'est très compliqué, c'est pas que les gens ne sont pas perdus, mais oui, c'est bien cette scène-là, c'est bien ce moment-là, et donc en effet, le gag du gars qui se réveille et qui fait ce qu'il fait, était beaucoup plus poussé, en fait, au scénario, et je pense que, à la fois pour des logistiques, si c'est pour des logistiques de tournage parce qu'il fallait tourner très vite, ou si c'est parce que Stéphane, le réalisateur, avec ses acteurs, se sont dit non mais allons plus dans l'émotion. Je sais pas exactement, en fait, parce que c'était un jour de tournage où j'étais pas là, mais donc ça a été assez atténué et finalement ça marche bien.
On va revenir sur le tournage après, mais moi je suis assez curieux de savoir comment vous travaillez ensemble. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes tous les deux dans la même pièce, vous brainstormez comme des malades, vous écrivez à quatre mains, ou est-ce que vous, à un moment, c'est non, mais je vais m'isoler, je vais écrire un truc, on se revoit? Comment ça se passe exactement?
Au début, ça se passait pas toujours de la même manière, puis là, on a une espèce de routine bien huilée.
Ouais.
Et on est physiquement dans la même pièce. Enfin, ça, c'est important de se voir. On s'écrit pas des mails, quoi. On se voit. On brainstorm ensemble, effectivement. En fait, on a les arches narratives de la saison, donc on a un pitch pour chaque épisode, et donc ensemble on discute pour arriver à un premier séquencier, en fait.
D'accord.
Donc séquence après séquence, qu'est-ce qui se passe grossièrement, on rentre plus ou moins dans les détails, parfois on note des idées de dialogue déjà, et ensuite quand on arrive à un séquencier qui nous plaît, et ben on se divise l'épisode par deux. Il y en a un qui fait la première partie de l'épisode et l'autre la deuxième pour dialoguer. Donc on écrit chacun de notre côté, mais souvent on écrit dans la même pièce pour se motiver.
Bon, d'accord.
Du coup, parfois on rigole tout seul et on fait « tu verras ». Parfois on se pose des questions de vocabulaire, de synonymes. Bon, bref, on échange un peu, mais on est chacun de notre côté. Et quand chacun a écrit sa première version dialoguée de sa partie, bah, on se l'échange, on se relit, on réécrit, et après on se le rééchange.
D'accord.
Enfin, donc ça, on fait plusieurs envois croisés comme ça, où on rature ce qu'a fait l'autre pour mettre autre chose, ou alors on fait super, c'est trop bien. Et puis en général, quand on arrive à une version qui nous plaît, on la lit à voix haute. On fait tous les personnages et tout pour vraiment peaufiner des petits trucs de dialogue, et arriver là, on a une V1 qu'on peut envoyer à Antoine.
C'est exactement ça. Pour la saison 1, c'est vrai qu'il y a eu des choses, ça s'est passé différemment en fonction des épisodes. Parce qu'au départ, pour moi, ce qui était très important, je me sentais pas en sécurité si j'avais pas, d'une certaine manière, une longueur d'avance, on va dire, si je savais pas vers où on allait. Donc, du coup, j'avais écrit les arches narratives tout seul. Parce que j'étais à la FEMIS, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, quand j'arrivais avec chez Camille pour qu'on bosse sur un épisode, j'avais le pitch de ça. Donc, je lui disais, voilà, là où j'en suis, c'est le pitch, c'est un peu ça. Parfois, j'avais déjà des idées de scène un peu, en me disant, il faut qu'il se passe ça à un moment donné, il faut que la fin soit cette scène-là. Parfois, c'était un peu plus vague, mais quand on se mettait à écrire les séquenciers, ça reposait sur un socle un pitch que j'avais fait un peu tout seul. Mais ça s'est, plus on avançait dans la saison, plus c'était ce deep pitch était vague, en fait. Et je pense que l'épisode qui a vraiment mis les compteurs à zéro entre guillemets, c'était ce fameux épisode 7 dont on parlait, le fameux épisode de la paix ordinatoire, parce qu'il n'était pas prévu celui-là en fait, enfin pas tel qu'il existe. C'est la seule et unique fois que c'est arrivé qu'on a écrit un épisode qui était selon les archives qui étaient écrits, on a rendu notre copie à Tetra Media et ils nous ont dit en fait, on trouve pas terrible cet épisode, vous êtes sûr de vouloir faire ça. Justement, c'était un épisode trop comique, entre guillemets, mais qui, du coup, trahissait les personnages, en fait. Ça veut dire qu'ils devenaient des caricatures d'eux-mêmes, en fait. On était arrivé à... Ça arrive beaucoup dans des comédies, même américaines, quand il y a trop de saisons, au bout d'un moment, les personnages deviennent des caricatures d'eux-mêmes. Ben, nous, on avait réussi on avait trouvé le moyen de faire ça dès le 7e épisode de la saison. Et donc, du coup, il y a une sonnette d'alarme qui est très juste, hein, et je remercie encore Antoine Zimalkam et le dossier d'avoir fait ça. On s'est dit, ouais, c'est vrai. Et du coup, en fait, bah, poubelle, mais on a un épisode, il nous manque un épisode. On savait qu'il fallait que ce soit l'épisode ou qui fasse avancer cette intrigue de entre Julien et Marie, mais on savait pas comment le faire exactement. On savait que les personnages secondaires, le personnage du flic Adrien, on savait qu'il soit là, et on savait que c'était l'épisode où devait arriver le personnage de la meilleure amie du personnage principal, mais comment faire ça. Et donc là, c'est la première fois qu'on s'est retrouvé entre quatre yeux à dire bon, bah il faut qu'on crée un épisode à deux en fait. Et c'était un peu flippant parce que jusqu'à présent, à chaque fois, on se reposait sur une idée que j'avais déjà eue et donc ça roulait plus facilement. Mais finalement, on l'a souvent appelé l'épisode maudit parce que c'était vraiment un épisode qu'on avait vraiment du mal à rédiger, à écrire. On nous a envoyé nos copies très régulièrement. On disait en blaguant après coup, tu verras que ce sera l'épisode préféré de plein de gens derrière. On n'y croyait pas du tout. Bah c'est un peu ce qui est arrivé. Hein. J'ai eu beaucoup d'échos qui me disent que c'est leur épisode préféré, donc je suis très content. Ou l'un de leurs préférés en tout cas. Mais donc du coup ça nous a décoincé. Pour fêter ça, bah Camille est partie faire un film, donc du coup les deux épisodes suivants, je les ai pas écrits avec elle. Mais après il y a eu les revenus pour écrire l'épisode 10. Qui est l'épisode final, où pareil c'était vague. Alors on savait de quoi on voulait parler, quel était le sujet principal, et toute la question c'était comment on fait ça, parce que c'est sans dire quoi, c'est un sujet très casse-gueule en fait, et il y avait toute l'idée de mais comment on va faire des blagues avec ça. Et justement, fort de tout ce qu'on a vécu, c'était et si c'était l'épisode le moins drôle de la série, mais c'est pas grave. Et donc du coup pareil, c'est un épisode qu'il fallait pas mal à inventer en fait, et on l'a écrit à une vitesse folle en fait. Mais donc du coup ça a fait que vraiment la saison 1 a permis à petit à petit vraiment être vraiment à deux dessus quoi, et ce qui fait que on est en train de on n'est pas officiellement renouvelé, mais Tetra Media n'a pas envie d'attendre que ce soit officiel avant de nous lancer dans l'écriture pour pas tourner trop tard. Donc on a déjà écrit les archives narratives de la saison 2 et commencé l'écriture des premiers épisodes de la saison 2. En espérant qu'on ne fait pas ça dans le vent, mais en tout cas on fait ça. Et donc du coup là vraiment à ce moment-là, fort de toute cette expérience-là de la saison 1, cette fois on écrit dès le départ vraiment à deux avec Camille. Quoi. Enfin j'ai un peu réfléchi à ce que je voulais faire cette saison 2 tout seul, mais j'ai fait appel à elle beaucoup plus tôt. On a écrit les arches narratives ensemble, on coécrit vraiment tous les épisodes cette année ensemble. Donc voilà.
Comment se passe le travail avec le réalisateur?
Stéphane Cafiero.
Stéphane Cafiero, oui.
J'avais un autre nom en tête. À quel stade il est arrivé dans le processus?
Alors, il est arrivé je sais plus si c'était juin ou juillet 2015, il y a pile un an donc, et c'était quand on était en train de... On était en cours d'écriture de la saison 1, OCS avait dit oui, on a commencé à faire un casting de réalisateur quand j'étais en même temps en train de d'écrire avec Camille l'épisode 4 ou 5 de la série. Et donc voilà, on a fait un casting de réalisateur, on en a rencontré pas mal. Et alors toute la difficulté était de trouver à la fois un réalisateur qui était capable de qui rassurait, qui était capable de tourner en 23 jours une saison entière. Parce que c'est ça la petite particularité quand même de la série et de toutes les séries OCS. C'est le budget pour une saison 1 en tout cas est de 500 000 euros en tout, donc 50 000 par épisode. Alors heureusement on a eu l'aide de la région Île-de-France qui, comme disait, c'est ce qu'il me disait Antoine Zemalka, le producteur, ça nous fait passer de SDF à RMiste à la rigueur quoi, mais enfin voilà, c'est une belle métaphore, mais c'est que ça devient possible grâce, c'est devenu possible grâce à cette aide, mais ça restait quand même extrêmement contraignant, et donc la preuve c'est que pour qu'on rentre dans nos frais, il fallait qu'on tourne tout en 23 jours, donc à peine 2 jours par épisode, même si on crossboard tout, du coup on tourne par décor. Évidemment, au tournage, à l'écriture, on réfléchissait déjà énormément à ça et on faisait extrêmement gaffe à ne pas inventer trop de décors, ou quand on crée un décor, il faut qu'il revienne. Ça aide beaucoup l'écriture, c'est-à-dire que l'épisode 5 qu'on a écrit avec Camille, qui est un épisode où le pitch c'est Jacques a disparu, donc du coup les parents, Jacques l'adolescent a disparu, donc ses parents se mettent à le rechercher, et qu'on a eu un pitch pareil, on a fait bon bah qu'est-ce qui arrive, on savait pas exactement, et en fait on s'est dit bah viens, on fait un peu pourri de tous les décors qu'on a vus avant et qu'on a quasiment pas vraiment réutilisé, donc le commissariat, la forêt, et ça, du coup on allait très vite dans l'écriture, donc parfois, et on aimait bien cet épisode, donc du coup ça peut beaucoup aider l'écriture, cette contrainte, mais non, n'empêche elle est là. Donc il faut à la fois un réalisateur qui est capable de faire ça, et en même temps on voulait pas juste un faiseur, un technicien, parce que on a fait aussi appel à quelqu'un qui va tout tourner, donc qui tourne tous les épisodes, donc du coup il faut qu'il ait un point de vue aussi, mais il faut qu'il soit on voulait un bon réalisateur quoi, tout simplement, mais qu'il soit à la fois en adéquation avec, sur le projet avec moi et Antoine Zemalka, et on sente qu'il a envie de faire la même série que nous quoi, et aussi qu'il accepte l'idée que c'est pas comme au cinéma en France ou dans certaines séries en France aujourd'hui qui est j'ai rendu ma copie et bye bye, et d'ailleurs tiens si tu veux changer ça vas-y je t'en prie quoi, non je restais là, et donc du coup il fallait
ça reste un travail collaboratif
exactement ouais, mais même si la vitesse à laquelle il doit tourner fait que de tout chaque décision ne peut pas être discuter c'est ça très longtemps, mais voilà, il fallait trouver une combinaison de tout ça, et Stéphane vraiment je l'ai bien senti quoi, et il rassurait, et Antoine Zemalka qui pareil par ailleurs artistiquement il était complètement d'accord sur l'idée que c'était sûrement le plus intéressant qu'on ait rencontré, mais que en plus il avait fait Templeton quoi, qui était une autre série OCS un an plus tôt, donc il savait à quoi ça ressemblait en fait. Et donc du coup c'était vraiment le candidat idéal, et c'est à ce moment-là que Stéphane est arrivé. Et donc comment ça s'est passé ensuite, j'ai continué à écrire et je me faisais relire uniquement par Antoine Zemalka, le producteur. Stéphane lisait les textes seulement une fois qu'on était avec Antoine Zemalka et Camille, bien sûr, on se soit dit OK, l'épisode est fini. Du coup, il a pas du tout participé à l'écriture au moment de l'écriture, c'est pour ça qu'il a dit oui au projet aussi, c'est que ça l'intéressait, il aimait le truc, mais il avait de temps en temps des choses à redire, mais le travail de réécriture avec lui s'est fait seulement une fois en septembre, quand la prépa a commencé, les 10 épisodes étaient finis. Et donc là, vraiment, avec Stéphane, on s'est posé, on a relu les scénarios ensemble, et toutes les questions qu'il avait pour moi, ou peut-être des envies de réel qui pouvaient changer un détail dans le scénario, on en a parlé. Vu que justement le tournage, faut pas perdre de temps, c'était très important pour nous d'avoir une prépa en acier, en fait, ce qui fait que quand arrivent les rushs à la fin, il n'y a pas le côté, mais qu'est-ce que t'as fait? Au secours, et que voilà, on voulait être sûr qu'il n'y avait pas de lézard et qu'on était vraiment d'accord sur tout, donc du coup on a vraiment lu tout chaque épisode, réfléchi ensemble, moi j'étais ravi parce qu'il voulait pas changer grand chose mais que en même temps quand on en parlait je voyais qu'il savait où il allait quoi et donc du coup apprendre à faire confiance à quelqu'un c'est très compliqué surtout quand il s'agit de déléguer une parole artistique aussi forte que cela sur son premier projet personnel.
C'est pas facile
du tout, mais surtout que moi j'ai du mal à faire confiance dans ces cas-là. Je pense que justement dans cette configuration-là, ça pouvait pas mieux se passer parce que Stéphane est quelqu'un qui m'est extrêmement bien à l'aise en fait, qui pour moi est quelque chose de très important quand on est réalisateur de toute façon, de se faire fédérer une équipe, et surtout quand on doit tourner aussi rapidement et donc demander à ses techniciens et à ses acteurs de faire l'impossible. Faut savoir leur donner envie d'être là le matin, quoi. Donc ça se voyait. Qui savait faire ça, qui savait fédérer ça, tout en ayant vraiment un regard intéressant sur le projet en lui-même. Et donc du coup, on a fait le casting ensemble aussi. Sébastien Chassaigne, on savait que c'était lui, parce que c'est même le seul acteur où Camille et moi on a écrit en pensant à lui à partir de l'épisode 3, parce que l'épisode 1 et 2 c'est le pilote en fait qui a été coupé en deux, on avait tourné un premier pilote au sein de la FEMIS, et donc du coup c'était Émilie Noblet qui était une ancienne élève de la FEMIS qui l'avait réalisé, et c'est elle qui avait cassé Sébastien Chassaigne pour le rôle, enfin qui avait dit t'en penses quoi, j'ai fait oui, c'est intéressant ce monsieur, et donc du coup quand on s'est dit quand la série on savait que la série elle existait pour de vrai par OCS et qu'il fallait tout retourner et tout ça, le seul truc qu'on savait c'était Sébastien Chassaigne, on le garde. Et c'était un des premiers tests pour Stéphane Cafiero, c'est regarde le pilote et dis-nous ce que tu penses. Honnêtement, il leur a dit Sébastien Chassaigne, je sais pas trop, je préfère vous proposer un autre acteur. Non, ça fait partie du contrat, tu prends Sébastien Chassaigne, mais évidemment, il ne s'est pas passé ça parce que justement, c'est le type, il a bien évidemment vu le pilote et il a bien évidemment dit bah oui, ce type est génial. Et c'est ça, il le dit lui-même d'ailleurs. C'est aussi après avoir vu cet acteur qui s'est dit ok, je veux faire le projet quoi, parce que je le trouve mortel et j'ai envie de le diriger. Et donc du coup, voilà, lui on savait, mais le reste du casting, donc on a fait vraiment tous les rôles.
Il y avait également l'acteur qui joue Adrien, qui a été.
Ouais, c'était.
Qui était dans le pilote FEMIS.
Ouais, il y avait et la commissaire, qu'on ne voit que dans une scène pour le coup, mais qui elle aussi on l'a gardée.
Désolé, je me souviens pas de la commissaire.
La commissaire, c'est dans l'épisode 2, c'est quand ils sont au commissariat mais c'est vrai que c'est un personnage. Pour le coup, vraiment secondaire, parce qu'elle est vraiment que dans une scène, contrairement à Adrien, joué par Vincent Stenbach et évidemment Julien par Sébastien Chassaigne. Mais donc, une fois le casting fait, les repérages faits aussi, où là c'était plus du domaine de Stéphane, mais j'étais toujours là aussi, une fois qu'on était vraiment d'accord sur tout ce truc, il a fait des lectures, alors seul avec ses comédiens, mais c'est normal, il devait développer une relation seule avec eux, et ensuite j'étais là pour voir à quoi ça ressemblait. C'était arrivé le tournage, et là à ce moment-là on est arrivé à un niveau de confiance. De toute façon j'avais pas le choix, mais quand même j'avais cet aspect. J'étais là les premiers jours et je devais m'absenter forcément la seconde semaine de tournage. Et au départ, je disais, mais je veux pas ne pas être là, quoi. Et après les trois premiers jours de tournage, j'ai compris qu'on était arrivé à un stade où c'est bon, en fait, je peux ne pas être là, j'ai confiance. Et ça, c'était vraiment pas gagné. mais il suffisait juste de trouver le bon mec et faire une bonne prépa avec lui pour que ça se passe bien, quoi.
Et toi, Camille, à ce stade, tu te positionnais comment? T'avais laissé à partir de l'écriture terminée, ou toi aussi, t'avais participé à la préparation?
Moi, j'ai participé dans l'ombre. D'accord. J'avais pas de raison d'être là non plus. Enfin, je veux dire, il y avait déjà assez d'interlocuteurs comme ça, je pense. Enfin, il y avait le créateur de la série et le réalisateur et le producteur. Moi, en tant que co-auteur, du coup, Fred m'envoyait les vidéos de casting. J'avais un lien aussi vers les repérages pour voir les photos. Donc, je donnais mon avis à Fred, qui éventuellement l'intégrait dans ses retours à Stéphane et Antoine. Mais j'avais pas de pouvoir de décision, puis c'était très bien comme ça, quoi.
À qui je dois dire merci pour le casting de Théo Fernandez?
La directrice de casting.
À la directrice de casting, déjà.
Il est super, ouais.
Alors, je suis très emmerdée parce que elle a un nom très compliqué.
C'est de Okinawa.
Merci, Okinawa. Qui l'a proposé après avoir proposé beaucoup de d'ados qui pour nous fonctionnaient pas, et ça a vraiment été une période de stress immense. Moi j'avais l'impression c'est très compliqué de trouver un ado qui fasse déjà ado, parce que donc la règle déjà c'est on trouve un gamin de 16 ans, ouais, parce que la DAS donc il faut trouver un gamin plus vieux que son âge qui fasse jeune. Déjà moi j'ai un grand problème parce que je craignais l'effet Dawson, quoi, ou n'importe quelle série américaine, en fait. Je veux dire, même
le même âge de ce que Sébastien Sacha.
Mais je veux dire, même des très grandes séries actuelles, genre je sais pas, The Leftovers, la gamine de Justin Theroux, c'est à mourir de rire qu'on nous dise qu'elle a 16 ans. Et alors c'est encore plus à mourir de rire quand ils font un flashback 3 ans plus tôt où elle est censée avoir 13 ans et qu'ils lui foutent des bagues. Mais bon bref, ça n'a rien à voir, mais je suis en train de clasher la meilleure série du monde, j'ai l'air d'un con, mais là non on voulait un vrai ado, on l'a vraiment trouvé au dernier moment, quoi, et je m'en souviens très bien, c'est Antoine Zimalkin qui me dit, bon écoute, on en a vu, donc le producteur qui a dit, écoute, on en a vu plein, il y en a deux qui sont intéressants qu'on veut peut-être revoir, on va, et donc cette fois il faut soit là avec Stéphane. Il me dit, il y en a un qui s'appelle Théo Fernandez, et alors peut-être tu l'as vu dans Trois souvenirs de ma jeunesse, qui était un film qui venait de sortir à ce moment-là. Il était sorti depuis un moment, mais bon bref. Et je fais, ah oui, mais attends, mais alors déjà tout de suite, moi j'entends Trois souvenirs de ma jeunesse, je fais trop vieux, parce que ils ont 19 ans. Mais il me dit, non, mais tu sais, c'est le plus jeune là qui joue le cousin Bob. Je suis toujours dans la logique trop vieux, parce qu'il fait beaucoup plus vieux, en fait, dans Trois souvenirs de ma jeunesse. Toute la particularité de son personnage, c'est qu'il essaie de faire plus vieux que son âge. Mais par contre, ouais, je vois qui c'est, et ouais, il était cool, mais trop vieux. Et puis on le voit, et puis en fait, pas trop vieux du tout, en fait. En fait, il a vraiment une bouille d'ado, quoi. Et en plus, on le caste avec Sébastien Chassagne même, qui était là. Et tout de suite, avec Stéphane, on voit qu'il y a un truc, quoi. Il avait exactement ce côté adolescent un peu boudeur Stéphane s'était juste dit, il faut que je pousse encore plus ce côté intérieur, parce qu'il a limite trop de charisme entre guillemets, Théo Fernandez, mais si on arrive à ça, et en fait on y arrivait en 5 secondes, parce que Théo Fernandez a une intelligence de jeu assez phénoménale, et c'est du papier à musique, ce type, alors que dans la vie on dirait qu'il comprend rien, quoi. Comprenons bien quand je dis ça, c'est-à-dire que quand je parlais de lui avec lui de la série, je me rendais compte que j'avais l'impression parfois qu'il avait pas lu les scénarios, en fait, qu'il ne comprenait absolument rien à ce qu'il jouait, ou je sais pas quoi, qu'il avait pas lu. Je disais, mais au secours. Et puis en fait, quand je vois comment il joue, je dis, ok, c'est un petit coquin, parce qu'en fait il sait très très bien ce qu'il faut faire. Mais donc, ouais, vraiment tout de suite, là, il y a une évidence, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi, surtout après tant de périodes de casting, et surtout que c'est pas un personnage facile, c'est vraiment, ouais, non, il est génial. Et puis, il a ce côté, bonjour, j'ai 17 ans, et j'ai l'air d'en faire 15, et si tout se passe bien, on croise les doigts, ça va continuer comme ça encore un petit moment. Je vais pas avoir une évolution Pokémon qui, d'un coup, en un an, je ressemble à, on dirait que j'ai 50 plus, hein. Avec Walt, c'est ça, mais c'est là.
25 cm,
c'est l'avantage de prendre un gamin de 16 ans qui fait 14 ans, plutôt qu'un gamin de 14 ans qui fait 14 ans, c'est que tu as moins de chance d'avoir une mauvaise nouvelle l'année d'après, quoi. Donc mais bon, c'est pour ça qu'il faut quand même pas trop attendre pour la saison 2. Mais j'espère que d'ici là, quand ce podcast sera sorti, on aura eu la réponse. Mais enfin, sauf si tort demain, mais d'accord. Mais bon, bah alors bonjour. mais voilà, bon, bref, il est génial, tout simplement. Je suis d'accord.
Toi, ton impression sur le casting, une fois, du coup, vu que t'as pas participé réellement au tournage, quel est le premier truc que t'as vu après la réalisation. Est-ce que tu as vu des rushs? Est-ce que tu as vu des épisodes finis tout de suite?
Ouais.
Ça s'est passé.
Ah bah, il y a eu cette chose merveilleuse, c'est que tous les rushs étaient en ligne, et qu'avec un petit mot de passe, on y avait accès. Et donc ça, c'était
le futur.
Génial. J'ai waouh. Du
tu
coup, bah.
Mais...
Alors non, pas du tout. Non, je me suis jamais permise de faire des commentaires, sauf à Fred, qui se débrouille avec ça. Mais du coup, ouais, non, je regardais les rushs de la journée, je regardais tout, et en plus, souvent, enfin, pour avoir en même temps réalisé un court métrage, c'est pas facile d'avoir des rushs, enfin, on se rend pas toujours compte du potentiel qu'ils peuvent avoir avant d'être montés. Enfin, et là, je trouvais déjà qu'il y avait un potentiel fou, c'était flagrant, enfin, du coup, j'étais assez ravie, quoi. Après, c'était un peu déstabilisant parfois de voir que c'était pas tourné comme on l'avait écrit, enfin, du coup, en tant qu'auteur, de pas avoir, on se disait, ah non, pourquoi ils ont fait ça et tout. Première réaction par moment, quoi. Et finalement.
Ce qui était intéressant quand tu faisais des retours sur les épisodes, quand j'avais des versions de travail et que parfois je faisais montrer, c'est que c'était pas forcément, toi, t'as co-écrit 6 épisodes sur 10 pour cette saison 1. Et t'avais des retours plus simples. Plus facile, on va dire, sur les épisodes que tu n'avais pas coécrit, en fait.
Ouais, bien
et donc,
sûr.
Du coup, ça crée tout de suite un recul plus fort quand t'es moins concerné par l'écriture d'un épisode. Et donc, du coup, ça faisait du bien aussi de voir que parfois on s'attache vraiment énormément à un truc qu'on a écrit et il faut savoir se dire, bah, de toute façon, c'est pas dans les rushs. Et puis, de toute façon, peut-être que c'est intéressant ce qu'ils ont proposé là aussi, quoi. Mais c'était, enfin, je sais pas,
Mais c'est tout, c'était souvent le cas, hein. Il y a des choses qu'ils ont tournées autrement, où il y a eu de l'impro et c'était super bien trouvé et pensé. Et c'est vrai qu'on a tendance peut-être à mieux le voir enfin, c'est vrai que moi, j'étais assez, peut-être plus facilement, ouais, positif sur les épisodes que j'avais pas coécrit. Et même dans la saison finie, mais bon, je sais pas quel est mon épisode préféré, mais en tout cas, il y en a que j'aime beaucoup et c'est ceux que j'ai pas écrit parce que même si je les ai lus, j'étais quand même, même si je les ai pas écrits, je les relisais, etc. Mais n'empêche que il y a un sentiment de découverte plus fort, forcément, donc du coup,
oui, bah c'est très bizarre. C'est moi les blagues qui me font encore rire quand je revois les épisodes maintenant. C'est pas des blagues que j'ai écrites.
C'est improvisé, quoi.
C'est les impros de.
Ouais, c'est sûr.
C'est un regard de Sébastien Chassagne ou de Nathalie Sarda qui joue Sylvie ou de Théo Fernandez ou Marie ou tous ou Vincent Sandbach ou enfin vraiment tous. Ils ont tous apporté un moment, un truc que vraiment j'ai pas vu venir et moi c'est ça qui me fait pisser de rire. Mais c'est parce que. C'est dur de se marrer à ses propres blagues,
ouais.
Et surtout quand elles parfois soit elles ressemblent à ce à quoi on s'attendait et donc du coup on n'est pas surpris entre guillemets, on est content qu'elles sont comme ça, mais c'est pas soit elles sont différentes et donc du coup il y a un mouvement de rejet, d'intérêt, de ah mais enfin au départ mais c'était pas comme ça que je la pensais et puis après la plupart du temps heureusement il y a un côté oui mais c'est intéressant quand même. Mais par contre, les trucs que vraiment on n'avait pas écrit du tout, là, il y a un sentiment de surprise immédiat qui marque, quoi. Et comme c'est tous vraiment des acteurs qui ont une capacité à improviser et à bien improviser, c'est-à-dire sans casser la logique du texte, la logique des personnages et la logique du rythme de la séquence aussi, ce qui est aussi très important, ça fait du bien. Ça fait du bien au texte et c'est... et même pour moi. Mais après, évidemment, il y a toujours des détails qu'on est les seuls à remarquer. Et plus on a le nez dedans, plus on manque de recul pour se rendre compte que c'est pas si grave que ça, s'il manque ça aussi. Et parfois, le regard de Camille qui avait clairement un pied dedans, mais en même temps, avait un regard plus distancé parce qu'il était moins au charbon avec Stéphane et Antoine Dimalka au montage. Me permettait parfois d'avoir à nouveau les pieds sur terre parce que elle me disait non mais ça t'as raison pour dire que c'est bizarre et que ou ça non mais ça c'est bon quoi en fait ça passe non l'épisode n'est pas 20 non c'est pas de la merde non voilà tu pètes un plomb Fred t'inquiète. ça arrive c'est évidemment que ça arrive c'est très compliqué.
J'aimerais bien faire une toute petite aparté sur la FMIS. Tu conseilles la formation?
Oui, je conseille de faire une formation. Après, donc, je ne connais pas. C'est la formation que je connais personnellement.
Bien sûr.
Je ne connais pas le CEEA, qui est l'autre grande formation de scénariste, mais j'ai bien cru comprendre qu'elle est aussi très intéressante. Donc celle-là ou la FMIS, comme vous voulez, mais je pense que c'est pas mal quand même. Enfin. De mon expérience, ça m'a appris en un an énormément de choses. J'ai dit que je voulais que je tombe devenu scénariste en même temps que je suis entré à la FEMIS avant, mais j'écrivais quand même beaucoup déjà. Je faisais des courts-métrages de mon côté. J'écrivais une bande dessinée pour enfants, qui était une autre forme d'écriture, mais quand même du scénario. J'avais l'habitude d'écrire des scénarios, mais c'était vraiment dans une logique autodidacte. Vraiment, deux secondes... ça plus le fait que j'avais maté énormément de séries dans ma jeunesse et que c'est un avantage je pense de notre génération et de celles qui vont arriver après, c'est qu'on a vraiment baigné dans des notes plus jeunes âges dans des séries télé qui étaient vraiment de qualité incroyable et donc du coup on a des acquis directement sans s'en rendre compte tellement qu'on a maté quoi. C'est que comme quand on finit par savoir parler anglais sans avoir pris un seul cours, si jamais on mate que des films en VO depuis notre plus jeune âge. Mais tout ça c'était un peu en vrac et en un an de formation j'ai appris à structurer tout ça, à savoir condenser, à savoir écrire quoi. Donc il y a ça. Ça permet aussi de comprendre complètement ce que c'est le monde de la série et de la télévision française. Et donc qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire a priori, mais que si jamais on sait savoir, on sait où se placer, on peut essayer de naviguer dans nos troubles. Mais voilà, c'est le côté essaye pas de commencer en faisant une série de science-fiction de 30 millions d'euros, pardon, ou je ne sais quoi. Non, je suis vraiment trop habitué à être pauvre. D'écrire des séries pauvres. Après, il y a d'autres choses. Tu veux faire de la série de science-fiction et t'as pas de budget, il y a quelqu'un qui a fait une web-série qui s'appelle Les Pitiers du Futur et c'est une autre méthode pour arriver à la télévision avec une crédibilité où on le laisse faire ce qu'il fait. Enfin, il y a toujours des limites, mais voilà, il y a d'autres choses aussi. C'est vrai que la web-série, ça peut être une autre chose, une autre technique, mais la logique de à la fois apprendre à écrire et en même temps apprendre la réalité du milieu dans lequel on baigne et troisième chose, un sacré carnet d'adresses qui grandit d'un coup, c'est-à-dire un an avant la FEMIS, j'étais personne pour tout le monde. Après la FEMIS, j'ai eu mon téléphone qui a signé à sonner, quoi. Et alors, en ayant juste fait un texte, donc du coup, évidemment, ça a aussi son importance. Et tout ça en un an. Je sais pas si c'est indispensable pour devenir un bon scénariste, mais ça accélère le processus très clairement.
Frédéric nous disait que t'étais sur un long métrage. Enfin, t'étais sur ton long métrage pendant.
Alors non, c'est un cours.
C'est un cours.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qui va venir pour toi dans les temps futurs? Est-ce que tu le prépares?
Une bonne question. Alors, écoute, là, moi, en 2 ans, j'ai réalisé 3 courts-métrages. En gros, je suis en train de finir le 3e. Donc, j'espère qu'ils vont. Enfin, le premier a eu le temps d'avoir une petite vie en festival. Deux suivants n'ont pas encore leur carrière de lancer. Mais j'espère qu'ils vont tourner en festival, voilà. Et puis, je pense que je vais reprendre l'écriture du long.
D'accord.
Soit celui dont je t'ai parlé, soit peut-être un autre. Parce que je commence à avoir pas mal. Travailler sur l'adolescence et j'ai un petit peu envie de parler d'autre chose, mais ouais. Ça reste un sujet, un âge qui m'intéresse, quoi. Mais donc voilà, quel sera mon futur, je sais pas encore. Mais ce que je voudrais, c'est continuer mes projets perso à l'écriture et la réalisation et surtout continuer à écrire sur les projets des autres. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai fait avec Fred sur Irresponsable et que j'ai adoré, en fait. Et j'ai très envie de m'immerger dans les univers d'autres auteurs, réalisateurs. Je trouve ça assez passionnant et assez reposant aussi. Quand on a ses propres projets, c'est beaucoup de stress, en fait.
L'investissement est fort, mais c'est pas le même.
Ouais. Enfin, il y a un fort engagement et bien investissement, sûr, mais c'est plus psychologiquement que c'est assez reposant, en fait. C'est beaucoup moins anxiogène, quoi. Donc, ça... Et puis, c'est... je sais pas, c'est vraiment un travail que j'aime beaucoup, en fait, de co-écrire avec quelqu'un. Donc, voilà, je voudrais développer ça.
D'accord.
Et enfin, je pense qu'on peut le dire, on coécrit un long métrage ensemble aussi en ce moment. C'est notre autre projet. Après, on sait pas.
Après, faut pas trop en dire, je pense, à ce stade. Mais
on va s'arrêter là. Mais qu'on coécrit un.
Dans une boîte de production.
Ou peut-être. oui. Mais voilà, on écrit un long métrage ensemble déjà.
C'est une comédie, c'est un drame.
C'est les deux.
Évidemment, c'est les deux. Non, mais ce qui est intéressant pour le coup, c'est que c'est contrairement à Irresponsable, c'est notre projet à deux. C'est pas Camille qui vient écrire son nom projet à moi ou l'inverse. C'est vraiment, cette fois, on est vraiment à deux, quoi.
Une petite question. Il y a toujours la cabane dans la forêt où elle a été démontée?
Elle a été complètement démontée.
C'est pour la saison 2,
de toute façon, même si on l'avait pas démontée, je sais pas si elle a été démontée, mais venir par les chefs d'éco, je pense que oui. Mais même si elle l'a pas été, elle a été démontée entre temps. Je connais bien la forêt de Chaville.
Ou alors elle est squattée.
Non,
je pense pas qu'il l'aurait laissée.
Non, elle était. Elle a été faite. On essaye de faire croire que c'est un endroit pas très facile d'accès, et comme toutes les bonnes cabanes doivent être faites à Chaville. Mais la vérité, c'est que c'est un endroit facile d'accès parce que il fallait amener tout le matos et tout ça. Donc évidemment, ce genre de cabane ne tiennent pas. A priori, on va pas la revoir en saison 2.
Non,
on va pas la revoir en saison 2. On va avoir de la forêt quand même.
Vous avez tous les deux vécu là-bas, c'est ça?
Oui.
Est-ce que je me demandais pourquoi Chavis? Mais oui, forcément, ils ont vécu là-bas, c'est obligé.
Complètement. C'est là où on a grandi. Et c'est là où chacun d'entre nous a tourné ses courts-métrages autoproduits également. Je sais pas pourquoi ça nous inspire tant, cet endroit.
Parce qu'on a tourné nos courts-métrages là-bas.
Parce qu'on était sur place aussi.
On en vient à Woody Allen, toujours à New York.
Ouais.
C'est Chaville.
Alors voilà, c'est ça, New York, Chaville.
C'est le même combat. Tu étais plus maline que moi, mais moi, quand je faisais mes courts-métrages avec mes potes à Chaville, on était des ados et on faisait des scénarios où c'était clairement censé être des adultes qui étaient devant la caméra, donc c'était pas crédible. Ce qui est marrant, c'est que maintenant qu'on est adulte, on se met à tourner avec des ados, à parler de l'adolescence, parce qu'évidemment, Chaville égale adolescence. C'est pas que je voulais absolument tourner à Chaville, faire absolument un projet pour Chaville, mais quand j'ai l'idée de faire une histoire d'un type qui revient chez sa mère, elle revient à Chaville pour me dans ma tête, c'est ça, c'est la ville des darons, hein, Chaville.
Ça aurait pu se tourner ailleurs.
Ça aurait pu se tourner ailleurs, mais je suis très content que ça soit passé à Chaville. Ouais. Et c'est aussi ça qui a fait que ça m'a paru logique en deux secondes que Camille vienne coécrire avec moi. C'est qu'elle savait que Chaville étant un personnage, n'est-ce pas, même de la série, attention, évidemment qu'elle savait très très bien de quelle ambiance je parlais, de quel type de banlieue c'était et quel type d'adolescence c'est, et donc du coup, on savait de quoi en parler tous les deux de ce niveau-là.
C'est bien, c'est intéressant qu'on approche justement au niveau de la banlieue parisienne. Il y a souvent deux options, c'est soit la banlieue le Vésinet, donc clinquant, plein de thunes, ou la banlieue où il y a des problèmes de partout, et c'est bien d'avoir finalement une banlieue mi-prolo, mi...
À Chaville, pendant très longtemps, était la seule mairie de gauche de toutes les Hauts-de-Seine.
Depuis 92.
Là, c'est fini parce que le député des Hauts-de-Seine a fini par dire ça suffit, je vais me présenter à Chaville. Du coup, c'est le village gaulois qui résiste toujours et encore à l'envahisseur, ça va aller bien. Mais c'est drôle parce que je sais plus quelle année, mais l'année où c'était le gouvernement Sarkozy qui était au pouvoir, donc du coup, évidemment, comme d'habitude là, pour les pour les élections intermédiaires des présidentielles, tout le monde est passé à gauche en guise de punition dans les mairies. Et nous, on était vraiment la seule ville, et c'était la dernière fois que j'ai voté à Chaville d'ailleurs, où qui est passé de gauche à droite. C'était bon, on est tout seul. Mais bon, bref, tout ça pour dire que j'ai aucun problème avec le maire. S'il vous plaît, laissez-nous tourner la saison 2. Mais en plus, ils ont vraiment, la mairie était très cool, donc il y a rien à dire. Mais donc du coup, oui, il y a un peu ce côté-là, même si, enfin, après, faut pas rêver. Hein, c'est une banlieue très bourgeoise quand même.
Ça reste une banlieue bourgeoise.
Et j'adore votre plus gros dealer de la ville, quoi.
Oui, voilà.
C'est tellement ridicule.
Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ridicule, et c'est pour le coup. Enfin, voilà, on écrit un rôle de dealer, hein, instinctivement. On se dit, viens, c'est un gosse de riche qui s'emmerde.
C'est un fils à papa.
C'est on préfère cette option-là, quoi. Donc ouais. du coup, oui, on s'est bien marré.
On va finir comme on finit toujours cette émission. Qu'est-ce que vous regardez en ce moment, qu'est-ce qui vous inspire, que ce soit une série, un film que vous ayez vu dernièrement, ou un bouquin, qu'est-ce qui vous a vraiment plu, que vous pourriez donner comme conseil de visionnage et de lecture?
Ah, moi je commence.
Bah ouais, vas-y.
Vraiment récent, du coup, ouais, ça veut dire si je dis Leftover, c'est trop vieux, ouais, non,
Que tu regardes en ce moment?
Que je regarde en ce moment, je regarde quoi en ce moment? Game of Thrones, mais je sais pas si je conseille, mais de toute façon tout le monde connaît. Moi j'étais très impressionné par Girls saison 5 dernièrement, parce que j'avais pas aimé la 4 en fait. Et du coup pour moi c'était une série qui avait limite jumpé The Shark, comme on dit, et vraiment incroyable, parce que cette saison 5 est vraiment excellente. Toutes ces dramédies comme BoJack Horseman, tout ça, qu'est-ce que je regarde en ce moment? J'ai commencé Casual, alors j'ai regardé que le premier épisode, je suis très déçu pour l'instant, mais je vais continuer. Je regarde Enfin au service de la France, parce que j'avais un peu peur, et on m'avait beaucoup dit que le début était un peu branlant, et c'est pas faux, mais là j'en suis à un stade où ça commence à devenir vraiment cool. Et j'aime beaucoup l'écriture de Jean-François Alain, tu sens que la réal pour le coup a un peu atténué, a un peu trop cherché dans sa direction artistique à faire du beau, et du coup a un peu atténué la comédie, mais la comédie marche, quand elle marche vraiment bien, et l'écriture d'Alain de Jean-François Alain est vraiment cool, donc moi j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment cool qu'Arte ait fait ça, quoi. En cinéma, j'ai pas vu grand chose qui m'a passionné, en fait. J'ai vu que des films où j'en suis sorti, je sais pas si j'ai aimé ou pas. D'accord. Genre, j'ai vu Maloute, j'en suis sorti en mode, ah, j'ai pas aimé, puis plus j'y repense, puis je me dis, en fait, j'ai plutôt bien aimé. À l'inverse, j'ai vu Elle de Verhoeven, où j'en étais, oh, c'était bien, et puis plus j'y pense, puis je me dis, oui, en fait, je sais pas, je suis vraiment Bayrou, là, de ce niveau-là, en ce moment. Vraiment, qui m'a passionné, il y a eu cette année, il y a eu Carole de Todd Haynes que j'adore, mais c'est tout, quoi. Voilà.
Ouais. Pareil, Girls saison 5, hyper haut niveau, je trouve ça incroyable. Chaque épisode est super bien, donc je conseille très vivement. Et Love, pour rester dans Jude Apatow, moi ça a été, j'ai vraiment beaucoup aimé cette saison 1. Enfin, j'attends de voir la 2, parce que la fin de la saison 1 pose question.
Bon. J'ai vu que 4 épisodes, je me suis arrêté, mais je vais redonner une seconde chance. Je vais continuer.
C'est marrant de parler de Jude Apatow, parce que c'est une référence qui est pas mal ressortie sur certaines critiques.
Ouais.
C'était une référence pour vous, mais...
Oh bah oui, quand même.
Oui, on l'assume, c'est ce que j'ai déjà dit, mais c'est... une bromance entre mec et mature, c'est vraiment très difficile de pas penser à Jude Apatow, c'est qu'on le veuille ou non, c'est vraiment son créneau. Et moi j'adore, que ce soit ses productions ou ses premiers films. Il commence à avoir un peu un retour du bâton, en disant qu'il tourne un peu en rond, et c'est peut-être pas faux. Enfin, ça dépend. Il y a encore des choses très bien, évidemment, de son écurie qui sortent. Mais j'adore, Et donc du coup, il y avait à la fois un côté faut l'assumer pleinement et d'un autre côté du coup, faut faire gaffe à pas trop être dans le même délire quoi. Faut trouver aussi notre propre ton, mais ça s'est fait naturellement parce qu'il n'y a pas que Judd Apatow qui nous inspire, loin de là. Et puis parce que c'est très américain aussi et c'est vraiment se dire les bonnes séries qui se font c'est des séries américaines, du coup il faut faire comme les séries américaines, faut faire gaffe avec ce discours parce que peut-être dans le fonctionnement il y a des choses à piocher, dans le oser des choses et les chaînes même les chaînes de network quoi, Hannibal c'est sur un network, faut se le rappeler, puis même Lost c'est sur un network, donc voilà, ça aussi peut-être certains diffuseurs pourront s'en inspirer. Mais par contre, pourquoi on aime autant ces séries alors qu'elles sont pourtant elles sont universelles et en même temps ça parle de l'Amérique, ça parle d'un truc qui ne peut appartenir qu'à eux-mêmes. Je vais sortir le gros classique, mais Breaking Bad, tu l'as fait en France, le type sort sa carte vitale et fin de l'histoire en fait. Donc c'est pareil en fait, en France, faire une série qui pourrait se passer qu'en France voilà, c'est une série où on sent une identité qui appartient à la fois qu'à notre pays et en même temps, je suis pas très nationaliste non plus, donc j'y réfléchis pas plus que ça, mais quand même, se trouver sa propre patte, c'est pas juste copier les autres, c'est important. Je sais même plus pourquoi je suis parti de là. Ah oui, si, Apatow fait des trucs très américains, donc essayer de faire du Apatow vraiment pur jus, c'est ultra casse-gueule, c'est forcément pas bien, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis que mon autre inspiration, c'est Bruno Paglides, qui pour le coup, quand il fait Dieu seul me voit, Marcel Chantier. Je m'en suis rendu compte après coup, mais vraiment en fait il y a un truc en fait dans l'idée de faire de l'humour des situations qui commencent gentiment et en fait le personnage alors Albert Jean-Jean n'est pas du tout le même que Julien Chandelier, mais ils ont pour point commun d'être des types qui n'assument pas trop la vérité et qui du coup pour sortir de l'affaire se mettent à sortir un petit mensonge pensant que du coup ça veut dire c'est bon, je vais fâcher personne, et évidemment c'est le point de départ d'un aggravement sévère de la situation qui dégénère et qui va très très loin. Et donc voilà, et ce type d'humour qui ça part de je prends des gens en voiture et j'ai dégonflé leurs pneus et du coup ils savent quelle est ma voiture, donc je prends la voiture d'un autre gars et donc du coup je vais pas me relancer là-dedans, mais c'est je me dis ouais c'est marrant, c'est typiquement un truc que Julien pourrait faire même s'ils n'ont pas la même personnalité totalement, donc du coup c'est clairement une inspiration aussi.
Et donc Fred, en conseil cinéma, vous conseille Dieu seul me voit, sorti en 97. C'est vraiment génial. Très très bien.
Conseil et série, cinéma et série.
Ouais, c'est ça.
Parce que c'est les deux, il y a deux formats.
Moi j'ai aussi pensé un petit peu à une version douce de Larry David, de Curb Your Enthusiasm.
Ah oui, bien sûr.
Positionnement d'une situation, d'une problématique qui finalement empire, surtout à l'épisode... où la cabane a une très forte importance.
Oui, ouais.
J'ai vachement pensé, je sais pas si c'est une référence que vous avez forcément.
Alors, Curb Your Enthusiasm, ça fait partie de ces séries dont j'ai.
Moi, je l'ai vu après, en fait. Pardon, je te coupe.
Non, mais je t'en prie. Et moi, j'ai vu deux épisodes de Curb Your Enthusiasm de toute ma vie.
Ouais, j'en ai
et
pas vu beaucoup.
Ça fait partie de ces séries que ça fait 1000 ans que je sais qu'il faut les regarder. J'ai vu deux épisodes qui m'ont confirmé que ça a l'air absolument monstrueusement génial. Il faut les regarder. J'ai toujours pas fait. Je vais bien le faire un
moi,
jour.
Moi, le rapprochement que je ferais, c'est... Parce que vraiment, Larry David, là, me met extrêmement mal à l'aise. Et je pense qu'irresponsable, c'est également un peu le cas. Enfin, c'est-à-dire que nous, on l'a écrit, donc on connaît ce qui arrive. Mais moi, je sais que je l'ai montré à mon copain qui vivait parfois très très mal le visionnage. C'est-à-dire qu'il était enthousiaste, hein, il aimait beaucoup, mais... Il y a des moments où il se mettait à tirer sur sa clope électronique de panique tellement il était mal à l'aise parce que Julien était en train de se ridiculiser ou... Et du coup, moi, c'est le rapprochement que je ferais entre ces séries, c'est le malaise que ça peut créer.
Et l'humour malaisant.
Enfin, sachant que Larry David, je trouve, c'est beaucoup plus poussé.
Bah oui, non,
mais incroyablement mal à l'aise.
Il y a Louis derrière aussi.
Ouais, c'est, lui aussi, ouais.
Qui, de ce niveau-là, c'est pas volontaire parce qu'on s'en est vraiment pas compte, mais le côté malaisant de. Ouais. Alors que moi, je ne supporte pas ça. J'ai adoré You're the Worst, par exemple, mais j'en suis toujours bloqué à je sais plus quel épisode de la saison 2. où c'est un épisode où elle se met à espionner ses voisins parce qu'elle pète vraiment un plomb, l'héroïne, et à un moment donné arrive la scène où elle est confrontée à aux voisins et tu sens que le mensonge va exploser. J'ai pété un plomb, j'ai éteint l'épisode, je ne pouvais pas supporter de regarder ça tellement que ça m'était malaise. J'ai jamais été foutu de regarder une seule caméra cachée, ça me met mal à l'aise, mais un point incroyable.
Et Ricky Gervais, justement,
ouais, mais c'est... comme ils le sont tous, en fait, ouais, tous les personnages, ça passe mieux, mais ouais, c'est pareil. Et du coup, quand Camille, parce que c'était l'un de nos premiers spectateurs, ne faisant pas partie de la série, le copain de Camille, et donc du coup, quand il y a eu ce retour de, ça le rend dingue,
il
de voir. Il se met sur sa clope d'écran.
Ouais, c'est ça, vraiment.
Il a mis pause, il fait une grande respiration.
Ouais. Vraiment, il se dit, mais vous êtes des malades de l'avoir amené là,
il disait pas ça, mais il est en stress, quoi.
Ouais, il était en stress. C'est marrant parce que je m'en rendais pas.
Moi, nous, on s'en rendait pas compte. Ouais. J'avoue que comme premier retour, c'était déstabilisant.
Mais après, j'aime bien ce jeu de jusqu'à où on peut aller et comment justement parfois ça va pas aussi loin que ce qu'on croit, mais parce que ça va vers autre chose,
oui,
et parce qu'on n'est pas forcément dans la provocation. Moi, j'ai eu un truc très rigolo qui était il y a un épisode, je peux le dire, il est dans une fête d'ado et je l'ai maté avec des, je pense, moi je crois, c'est un épisode les plus drôles pour moi, je pense. Enfin, c'est bizarre de dire ça quand on écrit soi-même, mais vraiment. Celui-là, il m'amuse beaucoup. Et donc, du coup, parce que je trouve les acteurs vraiment ouf. Bref, je l'ai maté avec des amis, qui je leur faisais découvrir. Et à un moment donné, il se fait dinguer par une gamine, qui est clairement mineure, et là, je vois les copains réagir en disant « Oh merde, ça va aller jusqu'à là, il va se taper une jeunette, le côté irresponsable. » Et je sentais le côté « Ah, ça nous fait marrer, on le voit. » Mais d'un côté, on le voit venir, et d'un autre côté... Franchement, je sais pas en fait. Et le fait est que en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. Je poil un petit peu, mais c'est parce que c'est pas l'intérêt de l'épisode en fait. Parce que justement, le type dit clairement, oula, j'ai une limite quoi. Faut pas déconner. Et ça m'a rassuré sur le côté. Ils ont pas eu le côté ah oh, t'as pas eu les couilles de ou je sais pas quoi, parce que faire de la provoque pour faire de la provoque, mais ça m'intéresse pas. Et donc du coup justement ils avaient ce retour là de dire non mais parce que moi je le voyais venir, et donc du coup c'est pas complètement autre chose, et donc du coup ça m'a surpris, donc du coup je suis content et ça me faisait surtout du bien parce qu'il y a d'autres épisodes un peu précédemment qui étaient où il se passait des choses peut-être un peu plus attendues, donc là au moins là il y avait vraiment un vrai sentiment de surprise. Et quoi d'autre, et en plus ils se sont rendus compte que c'était le plus important en fait, c'était l'empathie que t'as avec le personnage, et à quel point en fait, mine de rien, ce genre de truc le sauve en fait. se fait dire ok, ouais, c'est aussi un épisode où il refuse de faire un bang à un ado, et il dit non on fume juste un pétard, le bang je sais ça va trop loin pour moi, c'est comment dire, mais il a des limites. Voilà, après il blesse physiquement quelqu'un à ce moment-là aussi, donc il a ses propres. Enfin, je vais arrêter de trop dire de choses sur cet épisode, mais il se voilà, il y a une certaine, j'aime l'idée que d'une certaine manière ça le complexifie un peu, ce type, c'est que c'est pas juste de la provocation facile où on cherche absolument à faire le malaise, absolument à pousser les situations les plus extrêmes, mais au contraire, c'est réussir à conserver une humanité et une envie de suivre ce personnage tout en assumant pleinement ses défauts en fait, mais qui en font pas un salaud pour autant en fait. Quoi. Je pense à Gaston Lagaffe en fait, quoi. Il y a une certaine innocence dans sa maladresse.
Merci beaucoup.